Jusqu'à midi, la scène va se passer à l'Excalibur, à Bar-le-Duc on disait l'Excor, ou au Studio 54, à New York on disait 54. Donc, des discothèques, lieux menacés de disparition à cause de ce que vous savez, et ce matin, il est question de les célébrer, de revenir sur cette décennie où les discothèques furent des temples, avec fidèles dévoués du crépuscule à l'aube. Aujourd'hui, Pop & Co est une histoire de poche du disco, de ses prémices, en 1970, jusqu'à la Demolition Night, cette soirée du 12 juillet 1979, où les supporters d'un stade de Chicago ont fait exploser des vinyles disco. C'est l'histoire d'un style caricaturé qui fut pourtant ouvert au jazz, à la musique symphonique, au funk et à l'électro. Aujourd'hui, le disco est partout et chanté par des artistes comme Clara Luciani ou Juliette Armanet. Aujourd'hui, le disco est adoubé après avoir été méprisé pendant une bonne vingtaine d'années. En 2022, finalement, le disco réactive la nostalgie de la fête et d'un courant de liberté comme l'Amérique n'en avait jamais connu. Liberté, égalité et sensualité, qu'on soit noir, latino, blanc, homosexuel, trans, homme, femme ou hétéro. Toutes et tous réunis sur la piste, bonjour, bienvenue, c'est Pop & Disco.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
C'était un samedi, le 14 février 1970, précisément. Il y a une soirée dans un loft de 300 mètres carrés. On est à New York, au cœur de Manhattan. L'organisateur de la fête s'appelle David Mancuso. Quelques jours plus tôt, chez un disquaire de Brooklyn, il a découvert ce morceau totalement par hasard. Sur la pochette, il y a écrit Saul Makossa et le nom de l'auteur, Manu Dimango. Après que David Mancuso a déniché cette pépite, les DJ de New York se refilent le tuyau. Le morceau finit par être diffusé à la radio et devient un tube mondial. Saul Makossa de Manu Dibango est aux prémices du disco. Et pourquoi ? Parce que le succès inespéré de cette chanson raconte une révolution. L'arrivée de deux phénomènes nouveaux. L'invention d'un lieu d'abord, les discothèques, qui vont pousser partout, dans des lofts, des vieux théâtres ou même des rames de métro. Et l'importance d'un personnage, le DJ, dont David Mancuso est le père à tous. Aujourd'hui, on parle d'influenceur. Or, dans les années 70, l'influenceur, c'est le DJ. Celui qui va tenir le premier rôle dans cette odyssée du disco. La suite de l'histoire, c'est Belkacem Mezian qui vous la raconte. Belkacem Mezian est l'auteur de Night Fever, 100 hits qui ont fait le disco, paru aux éditions Le Mot et le Reste.
Pendant très longtemps, les DJ de radio étaient plus qu'influents. Quand il passait un morceau, ça devenait un hit. Donc dans les années 50-60, c'était vraiment la logique. Et au début des années 70, avec David Mancuso, Niki Siano, Bobby Cutadaro, qui sont vraiment les premiers gros DJ du disco, ils allaient chercher des raretés, des choses qui ne passaient pas à la radio. Et ça aussi, c'était un des attributs philosophiques des prémices du disco, c'était de passer des choses qu'on n'entendait pas forcément partout. Et donc on allait chercher les DJ pour la rareté, pour leur originalité. Ils ont montré leur influence, ils ont montré leur importance et de plus en plus de gens allaient écouter David Mancuso. Bon, il avait son club, mais Niki Siano qui était à la galerie et dans d'autres discothèques, on n'allait pas à la galerie pour la galerie, on allait à la galerie pour Niki Siano. Et quand il a changé de discothèque, on continuait à aller voir Niki Siano parce que il avait des mix et une sélection de disques qu'on entendait de nulle part d'autre, quoi. Et c'est d'ailleurs lui qui a mis en avant Love Stem de Love Unlimited, qui est le premier numéro 1 au top 100 issu d'un succès de discothèque.
Et mettre ce morceau que Belkacem Mezian vient de citer, ce Love Steam, c'est comme si vous disiez « Sésame, ouvre-toi ».
«
fois de plus, le succès de ce morceau est le résultat du hasard et de l'influence du DJ Nicky Siano. Il l'a sauvé d'un tas de vinyles qui devait partir à la benne dans une maison de disques. Et ce Love Steam sera un tel tube que c'est devenu la matrice de génériques d'émissions de variété ou de séries télé, comme celui de La Croisière s'amuse, par exemple. Love Steam, composition de Barry White, interprétée par son orchestre The Love Unlimited Orchestra, ce morceau donc pose l'un des fondamentaux de la musique disco.
L'importance des cordes et de l'orchestration qu'on retrouvera beaucoup chez Barry White parce que c'est lui qui est producteur. L'arrangeur est très important dans cette histoire, c'est Gene Page, qui est un monsieur qu'on mentionne pas forcément mais qui est très important parce qu'il fait partie de ceux qui ont défini les codes de l'arrangement disco. Donc ce qu'on va entendre tout au long des années 70, des grosses orchestrations de cordes. C'est vraiment issu de morceaux de Barry White, de la Philadelphia Soul.
C'est-à-dire d'une musique très orchestrée, quasi symphonique, quoi.
Bah, y avait un orchestre symphonique sur scène avec Barry White. Donc on avait bien sûr les violons, violoncelles, etc. Mais on avait aussi des cors. C'est-à-dire que les sections cuivres dans les morceaux des années 60 de Soul, c'était sax, trompette, voire trombone. Là, on a des cors, on a des sections trombones complètes, on a de la harpe, des vibraphones, des timbales d'orchestre. Et quand on regarde aussi l'orchestre, il y a toute la rythmique qui sont des musiciens noirs et tous les musiciens derrière qui sont des musiciens blancs. Les musiciens blancs qui viennent du classique, et bien sûr le groove est assuré par des musiciens noirs, et ça c'était très important chez Barry White. Il fallait des jazzmen, des gens qui connaissent le funk, la soul, le groove.
Les boîtes de nuit et la musique qu'elles diffusaient étaient des lieux et une bande-son comme des promesses. La promesse d'une féerie, de liberté réalisée, et ça après les années 60, année des débuts des luttes pour les droits civiques ou pour l'égalité homme-femme, le disco est aussi le refuge d'un monde rêvé pendant et après des guerres.
Il y a eu la guerre en Corée, ensuite il y a eu la guerre du Vietnam qui a été très marquante aux États-Unis. Tout le combat politique éprouvant finalement, c'est-à-dire une jeunesse qui a pendant 10-15 ans combattu, et au bout d'un moment, il a fallu peut-être aussi respirer, voilà. Ce qui a été obtenu, gagné à la fin des années 60, on en a profité pendant l'ère disco. Dans les années 70, on a des films comme Taxi Driver, comme Midnight Cowboy, qui montrent que finalement l'Amérique n'est pas si belle, c'est pas si facile de vivre aux États-Unis. Donc petit à petit, au début des années 70, il y a toute une jeunesse qui a voulu aussi respirer par rapport à tout ce que l'Amérique avait révélé, aussi bien en termes de droits qu'en termes de misère. Et donc on est passé d'une centaine de discothèques à presque 5000 discothèques aux États-Unis en l'espace de 2 ou 3 ans, ce qui veut bien dire que les gens en avaient vraiment besoin.
Décembre 1977. Saturday Night Fever, la fièvre du samedi soir en français, film de John Badham, sort sur les écrans. Scène d'ouverture. Dans une rue de Brooklyn, John Travolta alias Tony Manero se met en marche. Il avance en rythme sur les Bee Gees et un pot de peinture se balance au bout de son bras.
Ça parlait vraiment parce que je pense qu'il y avait beaucoup de Tony Manero qui représentait l'Américain moyen, qui allait danser, qui allait montrer ses talents et qui n'avait que ça en dehors de son boulot de quincailler, qui n'avait que ça pour respirer un petit peu parce que il y avait trop de choses négatives dans le quotidien des Américains et danser c'était l'un des échappatoires.
Et d'ailleurs, dans Stayin' Alive, les voix de dauphins des Bee Gees ne chantent pas que la fiesta. Les paroles sont un appel à l'aide, parce que, je cite, « la vie ne mène nulle part ». Heureusement, pour rester en vie, le disco est là. 27 octobre 1979, la télévision suisse, comme toutes les télés occidentales d'ailleurs, s'interroge sur le phénomène disco et sur ces créatures appelées oiseaux de nuit. Le reporter va sur le terrain pour recueillir des témoignages.
Et vous dansez jusqu'à quelle heure ?
Jusqu'à 4h30 du matin.
Et vous vous levez à quelle heure ?
8h30, après, pour commencer le travail à 9h. Enfin, moi j'aime ça, j'aime la danse, surtout le disco. Pour moi, c'est une forme pour oublier, enfin, se libérer de tout.
C'est la vie, autrement sans le disco, elle est triste.
Elle est assez monotone, la vie. Rentre, travailler, métro, boulot, dodo, c'est pas moi ça.
Avec cette musique, la piste de danse devient quasiment un lieu politique.
Parce que c'était les seuls endroits qui étaient enfin les seuls, peut-être pas, mais en tout cas un des rares endroits qui était vraiment ouvert à toutes ces populations, les parias, on va dire, de la société américaine, principalement noirs et homosexuels. Ça a été l'expression aussi, bah, pour les noirs, de c'est la première fois qu'ils pouvaient danser dans des lieux qui avaient pignon sur rue. D'habitude, c'était dans un certain circuit de salles noires où il y avait que des noirs, où il y avait le patron était noir, la caissière était noire, alors que là, ils pouvaient vraiment aller s'exprimer, montrer leur talent ou pas, mais en tout cas montrer ce qu'ils étaient sur une piste de danse où il n'y avait pas justement cette ségrégation, etc. La même chose pour les homosexuels, pas seulement homosexuels, mais aussi trans, travestis, voilà, les femmes aussi, les femmes qui avaient de plus en plus de possibilités de sortir, de s'affranchir de la tutelle du mari, si on peut dire. Donc c'est devenu un endroit qui permettait de se défouler de tout ce qui était trop contraignant durant la semaine, quoi. Voilà, donc c'est vraiment un lieu politique, même si ça, on n'a pas l'impression en parlant du disco que c'est une musique politique, mais c'est une musique libératrice, c'est une musique qui va permettre de digérer 15 ou 20 ans même de combats politiques très durs. Et donc, c'était normal que l'Amérique veuille danser, mais en même temps montrer aussi qu'elle avait gagné des combats. Enfin, certaines parties de l'Amérique qui avaient gagné des combats et qui voulaient vraiment le montrer et se révéler.
I said, young man, put your pride on the shelf and just go there to the YMCA. I'm sure they can help you today.
C'est carrément un mouvement, oui, c'est un mouvement collectif, et c'est la première fois que le mouvement homosexuel va vraiment se révéler, en tout cas à travers une musique, de manière beaucoup plus visible, beaucoup plus spectaculaire. On parle beaucoup de Sylvester ou des Village People, mais il y a un monsieur qui s'appelle Monty Rock, qui est le premier artiste. Il a sorti un morceau qui s'appelle Get Dancing en 74, et c'est le premier réellement qui a commencé à se montrer avec des tenues extravagantes, à révéler, en fait, à faire son coming out. Donc le disco, par son biais à lui, par le biais de quelques titres comme I Was Born This Way, qui sera connu un petit peu plus tard par Carl Bean, mais au début c'était un chanteur qui s'appelait Valentino. Ensuite il y a bien sûr les Village People et leur producteur Jacques Morali, tout en sachant que les gens allaient comprendre que c'était des homosexuels, mais rien n'était dit dans les morceaux, il y avait encore assez de flou pour qu'on puisse ne pas capter, en fait, ne pas s'apercevoir que c'était des messages complètement... comme dans YMCA ou In the Navy, c'est clair et net que c'est des messages à l'intention des jeunes homosexuels qui avaient du mal à se révéler.
YMCA, ça veut dire Union chrétienne des jeunes gens. Et les Village People chantent, là-bas ils ont tout pour que les jeunes hommes s'amusent. Tu peux y habiter avec tous les garçons, tu peux y faire tout ce dont tu as envie.
France Inter.
Voilà, et maintenant ça va faire
Rebecca Manzoni.
Boum, 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 boum.
Pop & Co.
Comme dans les boîtes à disques.
Roger Gicquel vient de vous le dire, ce matin, Pop & Co est une histoire de poche de la musique disco de 1970 à 1979. Au cours de cette décennie où le disco s'épanouit, le président de la République française présente ses vœux en s'essayant à la modernité.
Adieu donc, 1974, et salut à toi, 1975. Je souhaite que tu sois une année accueillante pour les Français, que tu répondes à leur attente, à l'attente de chacune et de chacun d'entre vous, à ses espoirs, à ses vœux, à ses désirs, à son cœur.
Pour l'année 1975, le disco saura répondre au cœur et au désir des Français avec Donna Summer. Love to Love You Baby est enregistré en Allemagne, à Munich. Les artisans de la bande-son sont Giorgio Moroder et Pete Bellotti. Belkacem Mezian.
Elle est dans le noir, elle gémit, elle feint l'orgasme en 75. Elle s'inspire de Jane Birkin sur Je t'aime moi non plus. Ce qu'elle fait dans ce morceau en 75, elle n'aurait pas pu le faire du tout. Ce que Diana Ross en 64 chante complètement innocemment, Baby Love, avec des belles paroles, des beaux sourires devant la caméra, une belle robe, etc. Et il n'y a rien qui dépasse, si on peut dire. Même Aretha Franklin, etc., c'était des chanteuses qui n'avaient pas la possibilité encore à cette époque-là d'affirmer leur sexualité. Là, on commence à voir les robes un peu plus échancrées, parfois même de la lingerie. Donc en fait, la décennie 70 autour du funk et du disco, principalement, voilà, c'est une libération, comme on parlait tout à l'heure des noirs, des homosexuels, c'est une libération aussi de la revendication sexuelle.
Attention, changement d'ambiance. RTL, il est 15h, l'heure d'Alloménie. Émission interactive de Ménie Grégoire, parce que si avec le disco, le plaisir féminin devient audible pour la première fois, il est aussi audible à la radio, dans Allô Ménie, avec des auditrices qui témoignent au bout du fil.
Quand ça se passe bien, j'ai deux gros orgasmes à la fin, quoi. Quand tout s'est bien passé, c'est formidable. J'ai une très grande richesse de ce côté-là.
Oui, oui, on entend bien. Mais vous n'avez plus de rapport sexuel du tout avec votre mari ?
Si, deux fois par semaine.
Deux fois par semaine?
Oui.
Eh, c'est pas si mal, madame. Je me demande si votre sensualité, qui est très épanouie, ne fait pas un peu peur à votre mari. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir ça?
C'est pas trop fort pour lui. Mm-hmm. Oui. Bah, c'est tellement agréable.
Et c'est devenu. C'est tellement agréable. C'est joli de vous entendre dire ça. C'est pas souvent qu'on l'entend.
Ah, ben...
C'est vrai que c'est tellement agréable, mais ce n'est pas toute la vie.
Oui.
Au revoir, madame.
Au revoir, docteur. Au revoir, Mimi.
Au revoir, madame.
Si Ménie disait que la sexualité n'était pas toute la vie, souvent, le disco nous disait que si. Et Love to Love You Baby fut aussi interprété comme un hymne féministe contre les gars qui font ça à la va-vite. Et pour la première fois dans l'histoire de la musique pop, la gente féminine n'est plus simplement représentée par des jeunes filles en mini-jupe, mais par des femmes en majesté, avec strass, robe de soirée et sexualité épanouie. On les appelle les divas du disco. La première d'entre elles se nomme Gloria Gaynor. Contrairement à elle, certaines de ses collègues ne connurent qu'un seul et unique tube. C'est le cas d'Anita Ward avec Ring My Bell, où il est question de sexe aussi. Dans la chanson, le ou la fiancée d'Anita rentre à la maison et elle lui dit « La nuit à venir est celle de tous les possibles. Toi et moi, on va sonner ma cloche. »
Thank you.
ce matin, Pop & Co est Pop & Disco.
Waouh, waouh.
Ça, c'est la réponse que Céron, musicien et producteur disco français, m'a donnée quand je lui ai demandé l'ambiance au studio 54 à New York, c'était quoi? Et donc?
Waouh, waouh. Très faux, on peut pas tout dire, je peux pas tout vous dire. Mais c'était un endroit où c'était l'extravagance, les gens se lâchaient. C'est la première fois qu'on pouvait voir une fille avec des talons hauts et en petite culotte. Ça pouvait être un mec aussi, c'était l'arrivée aussi du côté visible de l'homosexualité qui arrivait. Là, on l'exposait. Donc on était dans un excès de fête, on se lâche, dans tous les sens du terme.
Ça, c'est le début de Love in C Minor, premier tube de Céron, qui commence donc par cette scène de dialogue entre filles. Elles sont en boîte, comme en repérage, pour choper les amants potentiels. Après ça, le morceau se déploie pendant 16 minutes. Parce que la longueur des morceaux explose le format des chansons diffusées à la radio. C'est une des innovations du disco, reprise ensuite par la musique électro.
Pour bien installer une ambiance, un univers, une atmosphère, je me disais, 15 minutes, c'est le minimum. C'était vraiment dans ma tête, tout simplement, me dire que quand un couple se regarde, à travers la musique qui passe, et s'ils vont pas boire un verre ensemble, bah, ils se quittent au bout de 2 minutes. C'était un peu de la mise en scène musicale.
Ce morceau, personne n'en voulait au départ. Céron le publie d'abord à 5000 exemplaires qu'il place tant bien que mal dans des boutiques. Comme il a enregistré à Londres, il fait croire que le morceau est un truc anglais. Il met une fille à poil sur la pochette pour le mettre en lumière, comme il dit. Et là, le magasinier d'un disquaire se trompe. Au lieu de renvoyer un stock de Barry White aux États-Unis, le type expédie Love in C Minor de Céron de l'autre côté de l'Atlantique. À New York, le morceau tombe entre les mains d'un DJ qu'il diffuse en club, et Zou, enfin je veux dire, et Tube.
Et quand j'ai eu proposé ça pour avoir une distribution au Major Company, tout le monde m'a dit « Mais comment ça peut s'écouter avec un pied si en avant ?»
Ça veut dire quoi, un pied si en avant, Céron ?
Bah, le côté poum, poum, vous savez, le pied tous les temps.
Ouais, la grosse caisse, quoi.
La grosse caisse, c'est moi qui ai amené ça, parce que j'expliquais, parce que j'étais batteur. J'ai eu une période, d'ailleurs, où on me nommait le bûcheron.
À cause de ça ?
Poum, poum. On disait, c'est quoi ce poum, poum, ce poum, poum ? Et bien, 50 ans après, parce que je vais fêter cette année, mois de juillet, mes 50 ans de carrière, ça fait 50 ans que ce poum, poum, il est là et il bouge pas.
Love in C Minor est l'un des succès de l'année 1976. Cap sur l'année suivante, avec Supernature, toujours signé Céron. Céron présente ce morceau à sa maison de disque en disant que c'est de la musique synthétique. Et les gars lui demandent, c'est-à-dire, c'est du tissu ? Supernature est l'un des morceaux qui font muter le disco. Il passe d'une musique orchestrée, voire symphonique, à de l'électro.
Supernature, c'est un accident. On m'a proposé d'utiliser un instrument, un synthétiseur. À l'époque, on savait à peine savoir ce que c'était, à part certains très extrêmement branchés. C'était pas prévu.
C'est-à-dire que c'était pas prévu d'utiliser vraiment, de faire un titre uniquement avec les synthés ?
À Absolument. Déjà, c'était difficile de l'allumer, puisque tous mes disques, moi, étaient faits avec des vrais musiciens. Et le premier son que j'ai trouvé, c'était le... Ça avait le son ta-ta-ta-ta-ta-ta, très, très, très mécanique. Et je me suis dit, ou avec mon pied tous les temps, bien fort comme un bûcheron, ça va le faire. Ça va être chaud sur la piste.
Et ce titre-là, avec le titre produit par Moroder et interprété par Donna Summer, qui s'intitule I Feel Love, c'est un moment où la disco devient électro, où elle pose les jalons de la musique électro.
Absolument. Après ça, j'ai eu des programmateurs aussi de son. J'ai eu un mec, un anglais qui s'appelait Jonathan Jezalik, qui, 4 ans après d'ailleurs, a fait son propre groupe, qui s'appelait Art of Noise.
D'accord.
C'était vraiment des bidouilleurs, pas musiciens. C'était un petit peu la première graine de ce qui s'est passé après dans les années 2000. Des jeunes mecs qui n'avaient aucune notion musicale, si ce n'est qu'avoir une bonne oreille. Et ils sont devant leur ordinateur et ils font des choses, pour certains, merveilleuses.
La même année, 1977, un autre homme entre en scène.
My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
Giorgio Moroder, producteur, pose aussi les jalons de ce que deviendra la musique électronique une quinzaine d'années plus tard avec ceci. I Feel Love par Donna Summer. Belkacem Mezian, auteur de Night Fever, son hit qui ont fait le disco.
Avant 77, il y avait toutes ces orchestrations, celles de Barry White, de la Philadelphia Soul. Et en fait, petit à petit, la musique électro, qui existait déjà, qui n'en était plus à ses balbutiements, hein, mais elle était quand même réservée à des publics avertis, des musiques où il faut avoir une certaine oreille. Ce n'est pas des musiques qu'on peut passer à la radio à 14h, quoi. Et c'était pour une fois plus mainstream. Et en plus, avec une femme comme Donna Summer, qui était au sommet de sa gloire en 77, ça a permis de faire connaître des sonorités électro au monde entier. Et Céron a enchaîné juste après avec Supernature, Sylvester avec You Make Me Feel. Et entre ces trois morceaux, même s'il y en a plein d'autres, mais entre ces trois morceaux qui sont des hits qui passent non seulement en discothèque d'abord, mais après en radio, bien sûr, et à la télé, ça permet de s'habituer aussi à toutes ces sonorités électro. Giorgio Moroder, lui, il a le génie de populariser, de vulgariser.
D'ici 1979, la dernière étape de la mue du disco en musique électronique se fait avec Sylvester. Grâce à l'aide d'un génie des claviers, qui s'appelait Patrick Cowley, Sylvester s'impose comme une nouvelle diva du disco. Patrick Cowley s'inspire du I Feel Love de Moroder pour les sons électro et il en accélère encore le rythme. Cette bande-son soutient le texte. Sylvester est travesti. Et dans les paroles, c'est comme s'il disait l'effet que lui fait cette musique. Tu me fais sentir puissamment réel. Une phrase comme une profession de foi.
Premier qui va montrer qu'il est travesti, il va arriver en robe avec des totalement efféminé, maquillé, et en plus il a un grain de voix il atteint des aigus que certaines femmes n'atteignent pas. Donc ça, c'est le fait qu'il soit noir aussi. C'est il était dans une société où les deux communautés, enfin deux des communautés les plus ségrégées, les plus bannies, même la communauté noire a dû le recevoir pas toujours très bien, parce que il venait de l'église, qui venait du gospel, et donc il s'est retrouvé au milieu, voilà, de plusieurs ségrégations différentes, et je trouve que c'est un personnage important de ce côté-là, quoi.
Sylvester, mort du sida en 1988, fut l'une des grandes voix du disco. Mais une voix du disco, c'est quoi ?
Quasiment 100% des artistes noirs qui ont officié dans le disco sont des artistes de gospel ou ont fait de la soul music avant, dans le sud des États-Unis. Et puis petit à petit, quand c'est arrivé en Europe, quand le disco européen a commencé à marcher, il n'y avait pas la même tradition vocale, il n'y a pas la tradition du gospel en Europe. Et donc, ce qui fait que on a des unissons, des voix assez pas très marquées, pas du tout comme celle de Gloria Gaynor ou un petit peu plus tard, ou même Donna Summer, qui sont des chanteuses de gospel. Et le disco aussi va tendre vers ça petit à petit, vers une espèce de, voilà, de lissage.
Allô ?
Allô ? Allô ?
Allô ?
Elle, ça n'est pas une voix lisse du disco.
Je vous entends très très mal.
Et c'est ainsi qu'Amanda Lear fit son entrée dans ce pop and disco.
Moi, j'ai toujours aimé sortir en boîte. J'adorais ça. Je sortais tous les soirs. Vous savez, moi, j'habitais à Londres. Et donc, si je sortais pas un soir, c'était une soirée perdue, gâchée. Donc, tous les soirs, moi, j'étais en boîte.
Ah, parce que je suis tout.
En revanche, je vous dis tout de suite, moi, je m'attendais pas, moi, à devenir une vedette de cette musique-là. Moi, quand j'ai commencé à chanter, je voulais être une chanteuse rock. Moi, c'était le rock'n'roll qui me plaisait. Je sortais avec des rockers, avec Roxy Music, David Bowie, tout ça. Et donc, c'était le rock'n'roll, moi, qui m'attirait beaucoup plus, ou la musique pop, mais pas le disco. C'était bien pour aller danser en boîte, mais c'était pas ce que j'écoutais, moi, en boucle. Et c'était pas là-dedans que j'aurais aimé faire carrière. Et ce n'est que lorsque j'ai été contacté par ma première maison de disques, donc la première major, c'était en Allemagne, que je me suis rendu compte que là, ils misaient tout sur la disco. Alors là, les Allemands, ils y allaient à fond. Et donc, c'est là que ça a démarré. Ils m'ont pratiquement forcé, disons, à chanter de la musique disco, alors que j'étais un petit peu réticente au départ. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que ça ait du succès.
1978, Amanda Lear fait un tube avec le titre « Follow Me ».
Et moi, évidemment, en tant que parolière, ce qui m'intéressait, c'était de faire passer des messages, de raconter des histoires. Donc moi, j'écrivais des paroles que malheureusement, personne n'écoutait, puisque les gens, quand ils dansent, bon, ils n'écoutent pas vraiment les paroles.
Puisque vous dites qu'on ne fait pas gaffe aux paroles, attardons-nous sur les paroles de Follow Me. Qu'est-ce que ça dit ?
Follow Me, c'était, comme j'étais en Allemagne, évidemment, j'étais inspiré par Faust, l'histoire de Goethe, vendre son âme au diable. Et donc, Follow Me, c'est littéralement ça. C'est le diable qui dit, écoute, si tu veux réussir, si tu veux avoir du succès, si tu veux avoir une vie formidable, vends-moi ton âme, suis-moi, Follow Me, suis-moi, et je t'amènerai partout. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ça là-bas. Mais je ne sais pas si les gens ont très bien compris.
Et alors, la musique, elle est signée précisément d'un producteur allemand qui s'appelle...
Tony Mohn.
Voilà, Tony Mohn. C'était qui ce gars ? Est-ce que vous avez parlé musique ensemble ? Est-ce que vous avez participé à l'écriture ?
Écoutez, Tony Mohn était vraiment à part, parce qu'à une époque où en effet, bon, on produisait là-bas à Munich, c'était les Bonnie M, c'était... Tony Mohn lui était vraiment à part. Il s'est mis à employer des violons, des orgues, des sonorités qu'il n'y avait pas trop jusqu'à présent. Et en fait, ça a été une découverte. Je me suis très très bien entendu avec lui. Mon idée, c'était pas de faire une chanson, puis une autre, une dizaine de chansons comme ça, avec le... c'était de les enchaîner. Moi, je voulais faire presque un seul titre qui aurait duré 30 minutes, vous voyez. C'était passer d'une chanson à l'autre en racontant petit à petit une histoire. Et donc, on a travaillé ce concept ensemble. Et je dois dire, on s'est très bien entendu. La seule chose, évidemment, qu'il ne comprenait pas, c'était pourquoi je chantais si haut. Il voulait que je chante très très bas. Et je me suis rendu compte que, comme tous les Allemands, ils avaient cette espèce de nostalgie d'une Marlène Dietrich, vous savez, une Lily Marlène, une blonde sulfureuse à la voix rock qui fumait des cigarettes dans des cabarets. Les Allemands ont toujours adoré ça. Donc, ils m'obligeaient à chanter beaucoup plus bas que ce que m'avait appris ma prof de chant, quoi. Ma prof de chant me faisait chanter, elle me faisait faire des gammes, et quand je suis entré en studio, j'imaginais que j'allais chanter comme ça. Et mon producteur m'a dit, non, nous on veut une espèce de Marlène disco, on veut que tu chantes très très bas. Alors ils m'ont fait fumer des cigarettes, et puis boire un peu de whisky, et vraiment c'était, je m'en rappellerai toujours, c'était en plein hiver à Munich, ça s'appelait les Union Studio, et ce n'est que vers 4-5 heures du matin, quand j'avais plus de voix pratiquement, qu'ils m'ont fait enregistrer.
Il y a un groupe afro-américain qui a innové aussi avec les voix VOIX du disco. C'est le duo Chic, composé de Bernard Edwards à la basse et Nile Rodgers à la guitare. Rodgers et Edwards font partie de ceux qui donnent une orientation funky au disco. Ils vont poser les tables de la loi de la musique des années 80 en inspirant le rap. Nile Rodgers produira les albums de David Bowie, Madonna ou Blondie, Belkacem Beziane.
La plupart du temps, les deux chanteuses qui ont le même grain chantent à l'unisson, donc pas du tout harmonisées, et qui chantent des paroles qui ne doivent pas monter au-dessus du groove. On met d'abord en avant le groove, les orchestrations, et les voix sont là pour animer, on va dire, faire la chanson, mais on n'est surtout pas là pour mettre en avant les voix. Happy days are here again. C'est ce qu'ils disent dans Good Times. C'est dans Good Times. Happy days are here again. C'est-à-dire les jours heureux sont revenus. On a retrouvé la même liesse que à l'époque du swing où on dansait au Savoy. C'est dans les paroles de la chanson. On dansait au Savoy dans les grands ballrooms où il y avait 400 personnes qui dansaient le swing, le Charleston, etc. Et donc pour Chic, la manière de s'habiller pour venir jouer sur scène, c'est hérité de Cap Calloway,
de ce qu'on a appelé la Harlem Renaissance, c'est-à-dire une effervescence culturelle afro-américaine dans tous les domaines, musicaux, littéraires, et c'est des grands musiciens du Cotton Club comme Cap Calloway,
Mais Happy Days Are Here Again, même si c'est le retour de ces jours heureux du swing, c'est aussi pour mentionner que pendant 10, 15 ans, 20 ans, on a lutté et qu'on a mis ça entre parenthèses et qu'on a, pendant 15 ans, on s'est concentré sur notre but, c'était les droits civiques. Et donc, Happy Days Are Here Again, on y est revenu, là on peut retrouver des mots. Profitons-en, exactement.
Mais en fait, on ne va pas en profiter. Une explosion a lieu dans un stade de Chicago. Nous sommes le 12 juillet 1979. Et que s'est-il passé ?
Dans un stade de Chicago, un DJ a demandé au public de ramener ses disques de disco pour la mi-temps. Il a installé une benne où ils ont mis tous ces disques-là que le public avait amenés et il les a fait exploser. Voilà, ça c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on garde de cet événement, c'est-à-dire une mise à mort du disco par le biais d'un DJ qui s'appelle Steve Dahl. Ça a été un phénomène qui n'est pas né que de lui, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu plein d'associations comme ça, de gens qui venaient du punk, du rock, qui protestaient contre le monopole du disco. Et à la fin des années 70, c'était un monopole qui était tellement important que même les producteurs, même pour des histoires de business, ils voulaient la mort du disco. Et ce jour-là, les gens sont venus avec des disques de disco, mais ils sont venus aussi avec des disques de funk, de soul. Et Nile Rodgers, par exemple, il l'interprète comme un événement aussi raciste, parce qu'en fait, c'était pas une mise à mort du disco seulement, mais une mise à mort du monopole de la musique noire dans les années 70. Ça a été interprété aussi au fur et à mesure du temps comme un événement raciste et homophobe.
L'arrêt de mort du disco serait alors signé. Mais non, il va renaître, sous d'autres formes, avec ce qu'on appelle la high energy d'abord. Et puis il sera réhabilité, voire célébré, une vingtaine d'années plus tard, par une génération de musiciens qui sont nés en même temps que le disco, c'est-à-dire au mi-temps des années 70. Parmi eux, il y a Daft Punk. En 2013, le duo invite l'une des icônes du disco, Nile Rodgers, fondateur de Chic, pour tenir la guitare sur Get Lucky. Get Lucky, ou l'évocation d'un paradis perdu. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Nights again. We'll wrap up nights again. We'll wrap up nights again.
Pop and Disco, vous avez entendu Belkacem Meziane, musicien, conférencier et auteur de Night Fever, 100 hits qui ont fait le disco. Belkacem Meziane a aussi signé This Is How We Do It, 40 ans de R&B en 100 albums. Le tout apparu aux éditions Le Mot et le Reste. Queen Lear, c'est le titre d'un documentaire consacré à Amanda Lear. Il sera diffusé en avant-première au festival Fame à la Gaîté Lyrique à Paris. Ce sera le 18 février. Quant au dernier album d'Amanda Lear, il s'intitule Tube Rose.
Ah, écoutez, pour moi, c'est toujours des bons souvenirs. J'adore en parler parce que vraiment, je vois qu'encore aujourd'hui, des tas de chanteuses s'y mettent.
Et oui, le disco revient en force parce qu'il y a 50 ans, il a mis les genres et les identités sexuelles au cœur de la musique, thème dont il est largement question aujourd'hui. Parce que le disco répond à nos envies de fête. C'est notamment pour ça que Clara Luciani l'a adopté.
Elle respire l'odeur des corps qui dansent autour d'elle dans l'obscurité. Il s'effleure son timidité, une insolence chorégraphiée. Limite.
dernier mémo pour la route. Toute la discographie de Cérone est disponible sur le label Because, dont un album d'instrumentaux, paru en octobre dernier. Et si vous voulez mesurer l'influence des Bee Gees et de Saturday Night Fever, il y a un numéro de l'excellent magazine de cinéma Blow Up. C'est en ligne sur YouTube ou sur arte.tv. Vous faites Blow Up Bee Gees et ça marche. Koy Nguyen a réalisé cette émission avec Clément Berman ce matin. Ilinka Negulesco et Emma Ferret ont réuni archives et documentation. Et c'est Jean-Baptiste Audibert qui aiguille la programmation musicale de l'émission. La semaine prochaine, Pop & Co et Pop & Cosma, avec les bandes originales de Vladimir Cosma. Et on suivra les pistes d'une chanson de Cannibal. Cannibal, c'est le nom du groupe. À samedi.